À l'international?
Ouais, on va même peut-être, on va aller jouer aux États-Unis.
Ah bien, super.
Ouais. Après, on commence toujours avec les communautés françaises. Il y en a beaucoup à San Francisco, à Los
Ouais.
Angeles, puis il y a aussi des Arméniens un peu. Donc voilà quoi. Et je devais y aller en janvier, mais là ça va être un peu court. Donc on va préparer un petit peu le voyage comme il faut.
D'accord.
Et puis voilà.
Et pas de New York?
Si, si,
Si.
ouais. New York, la Nouvelle-Orléans, je crois. Et puis San Francisco, Los Angeles. Enfin, après, ça reste, je dirais, presque. Je développe aussi une start-up musicale là-bas, donc en Californie, qui s'appelle iMuse. Je suis allé me faire incuber pendant 3 mois. Et voilà. Donc on est un peu sur tous ces sujets-là qui, à un moment donné, convergent, et tout ça étant de la musique, c'est assez intéressant.
D'accord. Bon, super. Tu débutes?
Ouais,
C'est
du
ta
coup, ouais.
question là.
Oui, c'est la mienne. En écoutant l'album, j'ai écouté en écrivant d'autres choses, donc sans regarder les titres, et je me suis dit, oh, tiens, ça ressemble à du Dave Brubeck. Donc j'ai vu aujourd'hui qu'il y avait un morceau qui s'appelait Dave. Pourquoi en fait l'influence de ce jazzman dans l'album?
En fait, Dave Brubeck, il a écrit Blues Rondo à la
La Turque,
turque.
ouais.
Et en fait, les rythmes à la turca, à la turque, ce sont des rythmes composés à 5 temps, 7 temps, 9 temps ou 11 temps. Et du coup, c'est ça, je pense que c'est lui le premier qui a fait ça. Mais parce que chez nous en Occident, on est plutôt en 4 temps et 3 temps. Et les 5 et les 7, il faut les décomposer. En fait, il faut faire 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Ou alors 7, on fait 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Et par exemple, Blues Rondo à la turque, c'est du 9 temps. C'est-à-dire 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1. Donc du coup, de la même manière qu'en découvrant la musique de mes ancêtres, j'ai découvert des nouveaux modes, j'ai découvert aussi des nouveaux rythmes. Et il se trouve que ces nouveaux rythmes, bah, ils sont plutôt turcs. Et donc, moi, ce qui m'intéresse en tant que, je dirais, musicien, c'est d'avoir tout d'un coup du nouveau matos, du nouveau matériel. Moi, c'est ce qui m'a plu dans la musique de mes grands-parents. Si on m'avait dit un jour que je jouerais. Quand j'étais petit, si on m'avait dit tu jouerais la musique de ta grand-mère, j'aurais éclaté de rire. Et puis en fait, j'ai découvert ça par hasard il y a 10 ans. On m'a demandé de faire la musique d'un documentaire sur les Arméniens, sur la diaspora arménienne. Donc du coup, j'ai été chercher un petit peu dans cette musique et j'ai découvert des petites cellules mélodiques un petit peu entre Satie et Ravel. Quelque chose qui se marie super bien au jazz en fait. Et en découvrant ça, j'étais juste en train de me poser la question de me remettre au piano, c'est-à-dire j'ai toujours joué le piano tout le temps, mais du coup de peut-être sans chanteuse. Et l'idée c'était de trouver une clé, parce que entre Thelonious Monk et Bill Evans, le paysage est large, quoi, du trio jazz. Et du coup, c'est les mélodies de mes ancêtres qui m'ont donné la. Parce que quand j'ai fait la musique de ce film, je l'ai joué piano, contrebasse et ballet. Et du coup, mes potes jazzman, ils me disaient, mais c'est quoi ça? C'est incroyable, mais tu devrais en faire un disque, parce qu'on dirait c'est quoi? C'est des standards? J'ai dit, non, non, ce sont des thèmes traditionnels arméniens, et évidemment reprises un petit peu, jouées dans. J'allais dire dans le mood, mais comme c'est une musique qu'on appelle musique modale, et dans le modal, il existe dans le jazz depuis les années 60, tout le monde s'y est remis, c'est-à-dire aller plutôt sur une couleur et rester dans la même couleur. Et ben, je me suis dit, pour une fois que mes ancêtres m'amènent autre chose que des névroses, je vais en profiter. Et pour moi, c'était un bon cadeau, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est au niveau du mode. Et au niveau des rythmes, cet album-là, parce que c'est le troisième que je fais dans cette quête-là. Le premier s'appelait Inkala, il était chez Blue Note. Le deuxième, il s'appelait Mélancolie. Je voulais explorer un petit peu ce sentiment très oriental qui est de se réjouir de la mélancolie. Mais ça, c'est pareil avec le blues, avec la saoudade. C'est les mêmes mots. Hein. Ou le spleen de Baudelaire. Enfin, ça évoque, j'allais dire, cette idée d'aller, quand on nous arrive un truc pas cool, nous les musiciens on a de la chance parce qu'on se met derrière le piano puis on en fait on en fait un truc cool et ça nous guérit de notre tristesse, bizarrement. L'expression musicale de la tristesse vous guérit de votre propre tristesse. Je crois que c'est ça l'idée de la mélancolie, l'idée de l'expression artistique. Et sur cet album-là, qui est le troisième, j'avais envie d'aller sur les choses festives. C'est bon, la mélancolie, quand on a fait le tour, on va se suicider, au secours. Les doudouks et tout. Ouais. Et là, l'idée, c'était d'aller explorer justement les rythmiques un petit peu plus costauds et tout. D'où, voilà, vous avez pointé tout de suite, bravo, le propos du disque qui était là, et notamment autour de ce morceau que j'ai appelé... Alors, ce sont toutes des compos, sauf Moutner, qui est une compo de Garbis Aprikian, mais Brubeck Jan, ça veut dire c'est un suffixe qu'on met pour dire mon chéri. C'est quoi votre prénom?
Emmanuel
Jan, ça veut dire
Jan,
J-A-N. Ok, ouais, donc c'est une manière affectueuse qu'on peut coller à tout le monde quand on s'aime bien et tout ça, quoi.
Pardon, je restais un petit peu sur Brouwer, parce que même au-delà du rythme, parce que je sais que c'est le premier à avoir fait un jazz en 5 temps avec Take a Train.
C'est ça. Non. Avec Blue Rondo à la Turque.
C'est Blue Rondo à la Turque.
Ou avec. Enfin.
Il y en a un. J'ai entendu.
Take 5.
Take 5, pardon. Voilà, c'est celui-là.
Ouais,
c'est ça. Du coup, même les arrangements, les orchestrations, je les trouve très proches de Brubeck, avec le saxo soprano notamment, qui est là, même les sonorités sont... du coup, parce que j'ai réécouté un peu de Brubeck.
Alors Brubeck, du coup, il était fudge, donc il y avait du klezmer aussi, qu'il aimait bien. Le jazz, il vient de... C'est un mélange, évidemment, d'Afrique, mais des colons français, du quadrille des Tuileries pour le ragtime. Et les premiers instruments, très vite, ça va être la clarinette des klezmer. En fait, il y avait une espèce d'accointance entre les Juifs qui s'installaient aux États-Unis à la fin du 19e et qui étaient les rescapés des shtetls, c'est-à-dire des pogroms de l'Empire russe, quoi. Le tsar Alexandre II. C'est un accident, ce mec aurait jamais dû être... tsar, mais manque de peau, son frère qui était éclairé est mort il était fragile de constitution, il est mort à Nice, et du coup c'est l'autre brute qui s'est mise au pouvoir. Et du coup, ce petit moment d'histoire pour dire que tous les Juifs qui sont arrivés à la fin du 19e siècle, quand ils ont vu comment on traitait les Blacks, ça les rendait fous, parce que ça les ramenait au shtetl, au ghetto, où ils en chiaient vraiment. Donc il y a eu tout de suite une espèce de solidarité entre les deux. On le voit ça dans le bouquin de Mesmerow. Et puis surtout, bah, quelque part, ils amènent la clarinette. Et voilà, et ça va donner après Rhapsody in Blues. Ça commence par une clarinette déchirante qui peut être presque considérée comme un klezmer. Ou après Benny Goodman. Et il y a eu tout de suite une espèce de fraternité. Et très souvent, les premiers disques, c'était ces gars-là, quoi. C'était des fuges qui se mettaient dans le ghetto de Chicago et qui ont commencé à faire le premier label de jazz. Voilà. Donc il y a toujours, il y a quelque part, quand vous allez chercher sur l'Orient, vous allez tomber sur les mêmes phrases qui vont vous faire rappeler, quoi, qui vont vous faire penser à...
Et aller chercher et écouter la musique de ses ancêtres, ça fait remonter aussi des émotions, ça ravive des souvenirs. Est-ce que la musique a de la mémoire,
Question, bien sûr. Ouais. Non seulement la musique elle a de la mémoire, mais alors pour le coup, la première fois qu'on m'a demandé de jouer quelque chose d'arménien, je dis mais c'est quoi cette question? Qu'est-ce que je vais faire? Au secours, elle me prend pour un. Enfin, je savais plus où me foutre, sauf que c'était pendant une interview sur ce fameux doc sur la diaspora arménienne. Et il y a les caméras qui tournaient. Alors je me suis assis et je me suis rappelé d'une vague mélodie berceuse de ma grand-mère. Puis c'est là qu'elle a arrêté ses caméras. Elle m'a dit « Mais je veux ça ». Et puis je faisais un petit peu Bill Evans. Alors du coup, ça me remet dans cette histoire-là. Et souvent, quand je joue le répertoire, j'ai des pensées. Il y a un morceau que j'ai appelé « Danse du sable ». Alors il fait penser, lui, un petit peu à Khatchatourian. Mais surtout, pour moi, la danse du sable, c'était ma grand-mère qui marchait dans le désert d'Erzor et qui disait « Le sable, il va nous emporter, quoi. Quand il y avait du vent, il ne va rien rester de nous. » Et finalement, elle est restée, elle a survécu parce qu'elle a pris la tête du soldat turc. Donc ça aussi était en même temps tout un questionnement par rapport à ça. Et pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à poser des questions à mon père qui ne m'a rien raconté. En gros, il y a deux manières de réagir quand on est rescapé d'un génocide. Il y a ceux qui racontent dans le détail à leurs enfants les horreurs et puis ceux qui ne racontent pas. Ceux qui racontent, ceux à qui on n'a pas raconté, du coup, sont épargnés. Donc moi, j'ai pas de, ça m'a épargné de la haine. Donc c'est cool. Par contre, après, il y a un moment où on a envie de chercher soi-même et puis là, on découvre. Et c'est peut-être mieux comme ça de, parce qu'il y a des choses qui sont qu'il faut pas transmettre, sinon on transmet soi-disant de la mémoire, mais c'est plutôt de la haine qu'on transmet comme ça, on s'en sort jamais. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a des morceaux qui sont comme le parcours qu'a fait ma grand-mère, 1000 km du nord de la Turquie, au débord de la mer Noire jusqu'au désert de Syrie, pendant que mon grand-père était prisonnier chez les Russes parce qu'il avait été enrôlé de force dans l'armée ottomane, qui s'est échappé, qui est revenu, qui ne retrouve pas sa famille, qui s'est fait prisonnier, qui s'est évadé et qui s'est battu avec les Russes et les Arméniens contre les... Enfin bref, voilà. Et pour finir, il se retrouve par miracle à... chez un cousin en Bulgarie qui faisait des roses, et la rose de Damas, et c'est la même rose de Ronsard qui poussait à Cachan. Ronsard, il était à Cachan, et Cachan, c'est une ville de Perse où la rose est née. D'ailleurs, on l'appelle la rose de Cachan, mais c'est pas Cachan chez nous, c'est Cachan de là-bas. Bref, il y avait des boucles comme ça dans l'histoire, dans la musique, qui m'ont alimenté pour, aller vers tous les titres de cet album. Et le truc important aussi, c'est que j'ai rencontré une chanteuse arméno-syrienne. Alors, arméno-syrienne, ça veut dire qu'elle est d'origine arménienne, mais ses parents, au lieu de venir en Europe, ils sont allés en Syrie. Mauvaise pioche. C'est ce qu'elle me disait. Elle me dit, comme t'as de la chance, toi, ton grand-père, il est plus ici. Le mien.
Ouais. Et comment vous composez ? Est-ce que vous êtes forcément derrière, enfin pour cet album-là, est-ce que vous êtes forcément derrière le piano, ou est-ce qu'il vous arrive de poser des notes sur le papier ou...
Les deux.
Ou sur un smartphone ?
Le truc le plus... Beaucoup de smartphones, beaucoup de enclencher record et puis jouer le matin des choses. Et puis aussi, parfois, même sur un tircu, j'ai eu une super mélodie, j'ai sorti un bout de papier, je l'ai écrit comme j'ai pu, et puis voilà. C'est quand les mélodies viennent, il faut pas les louper, quoi. Mon smartphone marchait pas, et donc du coup j'ai fait une portée vite et quelques lignes. Mais aussi, les thèmes, je les ai beaucoup travaillés, et ce qui me plaît, c'est que c'est un répertoire qui peut se jouer tout seul au piano. Un petit peu comme si c'était un peu des pièces, un peu presque classique. Pendant que j'ai composé cet album, j'étais dans Beethoven aussi. J'avais retrouvé une sonate numéro 8 que je bossais quand j'étais petit, et je l'ai retrouvée, et tout d'un coup je vois des accords géniaux. Puis quand on commence à l'analyser à l'aune du jazz, quand on leur fait tous, ils font tous des accords incroyables, quoi. Simplement chez les classiques, c'est des notes de passage, mais quand on les joue, ça fait mal aussi, quoi. Donc il y a toutes les dissonances possibles et inimaginables, y compris dans Jean-Sébastien Bach. Ce que j'aime chez Beethoven, c'est sa manière de contracter, d'être très sombre, puis tout d'un coup d'ouvrir, quoi. Et c'est ce va-et-vient permanent, cette espèce de passion. Et je me suis aperçu que, plus tard, j'ai lu Boussole de Mathias Hénard, le prix Goncourt d'il y a 2 ans, qui raconte les délires d'un musicologue viennois qui a la fièvre et qui est un orientaliste. Et la légende veut que Beethoven avait un tapis avec une boussole incrustée, mais que cette boussole, au lieu d'indiquer le nord, elle indiquait l'est. Donc elle indiquait l'orient. En gros, comme pour dire, tout vient de là-bas, quoi. Donc c'était vraiment un beau chemin que j'ai parcouru.
Et vous parlez de lecture, moi j'ai du mal à lire avec votre musique, en fait. J'ai trouvé un peu trop
excitante. C'est lui qui parle de lecture.
Non, moi j'ai du mal à lire.
Mais moi j'essaie de lire en même temps.
À lire en même temps.
Et lui, c'est un peu trop excitante.
Ouais, c'est ça.
trop rythmé.
D'ailleurs, j'ai vu une interview à propos de cet album où vous disiez que vous aviez mis votre libido dans le piano.
Ouais.
Et qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
Ça veut dire qu'avant, c'était la chanteuse qui m'inspirait. C'était pas la chanteuse, c'était tout d'un coup un timbre de voix. Alors, il y a des dames qui me racontaient des histoires. La première fois que j'ai entendu que ça m'est arrivé, c'était une chanteuse de jazz. J'étais tout jeune, elle aussi. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette voix de dingue? Je me suis mis à me mettre du côté de la mélodie, alors qu'avant ça, j'étais juste dans le piano. Je faisais pas la différence entre Stevie Wonder et Sheila. Pour moi, ça m'intéressait pas, c'était la même chose. C'était des chansons, donc j'étais vraiment dans les gammes pentatoniques, les suites d'accords diatoniques. C'était que des mots qui terminaient en nique, mais la voix, j'en avais rien à foutre. Et puis un jour, je faisais mon album avec mes musiciens, mon premier album. Je revenais de la Berklee School of Music de Boston. C'était des grenoblois dans un studio. Il y a une chanteuse qui passe par hasard, demandait du boulot. La meuf, elle est super mimi, c'est une métisse. Waouh! Elle sort, je dis au taulier, mais qu'est-ce qui, c'est qui elle? Elle me dit, c'est une chanteuse. Si on essayait, on était tous en train de s'engueuler pour savoir qui allait faire le prochain solo. On la rattrape, on lui pose le casque, elle se met à chanter. Ah, et là, elle chantait comme Sarah Vaughan, quoi. Donc du coup, c'est là que je suis passé du côté féminin de la force. Et je suis passé et j'ai vu ce que c'était qu'une muse, quoi. Et du coup, après, j'ai fonctionné comme ça tout le temps. Après elle, j'ai rencontré Liane. Après Liane, j'ai bossé avec Malia. Même Steph, ma meuf, elle était chanteuse. C'est toujours des timbres de voix qui m'accroche. Puis un jour, je suis allé voir le docteur, il m'a dit, vous pouvez pas continuer comme ça, vous tombez amoureux, vous écrivez, vous êtes largué, vous écrivez. Je dis, mais qu'est-ce que je fais, docteur? Il m'a dit, vous mettez votre libido dans votre piano. Je dis, merde, mais ça fait mal. Et du coup, voilà, l'idée, c'est une image pour dire qu'à un moment donné, la chanteuse, c'est mon piano. Et ça, il faut y aller, parce que c'est pas... J'allais dire, c'est pas le plus facile des instruments pour sortir une expression, mais c'est l'instrument le plus complet, mais ça reste quand même un instrument à percussion. Oui. Quand vous êtes sur le violon, quand vous êtes sur le sax, quand vous êtes sur le souffle et tout ça, là, voilà, l'idée, c'était d'y aller. Et quand on écoute des Brad Meldo, pour moi, il y a plein de pianistes qui les font chanter leur piano. Donc c'était ça aussi mon challenge. Et du coup, comme j'ai toujours été un mélodiste, c'est pour ça que ça m'aidait doublement d'avoir aussi ces mélodies de mes ancêtres qui m'aidaient à les driver tout ça, quoi.
Et donc maintenant, le piano, c'est une belle muse?
Ouais. C'est... Alors, là, peut-être qu'il faut ouvrir, là.
Elles sont parties, les filles?
Ouais.
Ah mince, je crois qu'elles étaient en bas.
Décroche le téléphone à droite et tu dis dernier étage en haut. Ouais. Est-ce que le piano, c'est une muse?
Maintenant.
Oui. Le piano, je dirais le piano, mais plus que ça, l'Orient. Du coup, j'avais trouvé en même temps qu'une muse, tout d'un coup, une source d'inspiration incroyable, et où j'étais, et je suis pas le seul là-dedans. Aujourd'hui, une musique, pour qu'elle se régénère, il faut qu'elle incorpore des éléments nouveaux. Le jazz, c'est devenu la musique classique des Afro-Américains. C'est comme ça qu'ils le voient eux-mêmes. Wynton Marsalis, il dit, c'est notre musique classique, ça rentre dans un musée, c'est nous qui avons les clés, etc. Et tout ce qui se passe intéressant aujourd'hui, de nouveau, ça vient d'Orient. Quand on le mélange avec, c'est Tigrane, c'est Ibrahim Malouf, c'est Rachid Mirani, c'est Dafer Youssef, il y a tout un courant. Et du coup, moi, je fais un festival à Chamonix qui s'appelle le Cosmo Jazz tous les étés. Ça va être la 8e saison. Et comme on joue en altitude dans des sites incroyables, c'est à midi, chaque jour, c'est un site différent. Et je voulais des choses qui invoquent. On ne peut pas jouer du bebop dans la nature, ça n'a pas de sens. Donc tout d'un coup, les gens qui venaient des montagnes, du Caucase et tout ça, là, il se passait un vrai truc. Et je dis que je remets le musicien dans sa position de chaman. À la base, chaman, ça veut dire celui qui sait parler aux esprits, avec son instrument de musique. Donc voilà, c'est tout cet aspect-là qui me fascine. Le jour où j'ai découvert un pianiste de flamenco, j'étais sur le cul. J'allais dire... l'instrument, finalement, on l'adapte à tout d'un coup à quand on est musicien et qu'on cherche. Alors, la chanteuse, c'est formidable parce qu'encore une fois, elle vous inspire. Quand vous avez pu, c'est à la source de la musique qu'il faut aller. Et j'ai le sentiment que je suis toujours en train de tirer sur un fil et de dérouler, de découvrir des trucs de dingue, quoi. Voilà. Et tant qu'on a ça, on peut continuer.
Et c'était qui cet artiste de flamenco?
Il s'appelle Dorantes, Dorantes. C'est trop beau.
Bon, il faut qu'on écoute.
Mmh. Moi, t'en as une autre, parce que moi, du coup, j'ai un
peu... Ah ben, bah, si, si, de... alors moi, si...
Vous avez... Je réponds à une question
bah, en... Non, bah, oui.
En répondant à trois.
Ouais, ouais, non, non, il n'y a pas de souci, hein, de toute façon.
Mais moi, je voulais savoir, est-ce qu'il y a une chanson plus personnelle, enfin, la... une musique, pardon, une création plus personnelle dans cet album, qui a un rapport vraiment direct avec...
Ouais, la première...
Avec votre vécu, avec ouais. votre histoire.
La toute première pour Dédédom.
La Patrick.
Ouais. Et à la base, elle ne s'appelait pas comme ça. Je voulais l'appeler du prénom de ma grand-mère parce que ma grand-mère, elle est morte, j'avais 5 ans, 6 ans. Et pour moi, c'était quelqu'un de sombre. Et j'ai connu son histoire il n'y a pas très très longtemps. Quoi. Et donc, tout d'un coup, je me suis dit, putain, bah, chapeau. Quoi. Et du coup, il y a quelque chose de... Il y a quelque chose d'un paradis perdu là-dedans. Et après, je l'ai appelé Apatride parce que j'ai retrouvé les papiers de mon grand-père il n'y a pas longtemps. Il y avait de ce gros seau et on était en plein dans le débat chez nous sur la déchéance ou pas de nationalité. Mmh. Et je me suis dit, putain, les gars, il y a un moment, on était tous des Apatrides, quoi, c'est tout.
Ouais. Et la musique.
Et moi, je le revendique. Pour moi, Apatride, c'est peut-être ça, là, c'est presque ça. Ça serait presque la solution, quoi. Et les musiciens, par essence, c'est des gitans, c'est des nomades. Mmh. Donc. Ils n'ont pas de patrie, leur seule patrie, c'est la musique. Et ce que j'ai fait avec celui-ci, l'album, c'est que je suis allé enregistrer Hello avec des musiciens turcs, avec des musiciens iraniens, palestiniens, syriens. Pas pour faire un espèce de United Color of Benetton, mais juste pour aller choper... parce que le hasard a été là. J'ai rencontré un violoncelliste turc qui... Ils ont une manière de jouer, ils font un super vibrato. Vous avez l'impression qu'il y a des voix qui sortent du violoncelle. À la fin, il dit, mais c'est quoi cette musique? Et là, on était à Istanbul, l'ingé son lui dit, bah, c'est un Arménien qui l'a fait. Il m'a pris dans les bras, il m'a dit, Kardash. Je dis, ça veut dire quoi, Kardash? Ça veut dire mon frère en turc. Donc,
ah, c'est beau, ça.
Ouais. Donc l'idée, c'est que nous, les musiciens, encore une fois, quand on entend quelque chose qui nous plaît, on le prend, puis on a envie de le partager ensemble. Et on peut se parler sans connaître la langue. D'ailleurs, lui, il ne parlait même pas un mot d'anglais. Mais voilà. Et pour moi, ça aussi, c'est important. J'avais envie de replacer la musique arménienne dans son contexte, qui était celui-ci. Parce que depuis le génocide, ils ont eu tendance à dire, les Arméniens, on n'a plus rien à voir avec l'Orient, on est des Occidentaux. Ils ont même enlevé les quarts de ton de leur instrument. Pour être vraiment... Et quand j'ai fait... Donc, en plus de ça, pour moi, c'était aussi sortir de... Parce que les premiers albums que j'ai faits, c'était la musique que de ma grand-mère. Mais c'est quoi? C'est la musique de la diaspora. Ça veut dire que c'est la musique qui jouait en 1920. Mais depuis, ça a évolué, mais pas chez nous, puisqu'on est resté avec ça. Donc, c'est ça qui est rigolo, c'est que ça fait comme une photo un petit peu. Pendant ce temps, ça évolue. En Arménie, qui était côté soviétique, et l'Arménie moderne actuelle, eux, ils ont eu l'influence des Russes, donc ça a encore changé. Et moi, j'ai voulu aller sur là où d'où ils venaient. Moi, ils venaient de Turquie, les miens. Sinon, on n'aurait pas été là. Donc, j'ai eu envie de retrouver ça, cette musique que j'ai imaginée, la musique d'avant le génocide, d'avant la catastrophe, l'époque où ils vivaient heureux. Tous les uns avec les autres, quoi.
Et le plus bel endroit où on peut écouter cet album, pour vous, ça serait...
Un bel endroit où on peut écouter ça.
Un beau décor.
Dans un beau décor. Alors, ça peut s'écouter dans un truc qui roule sous la pluie, dans une bagnole, en voyant un paysage qui défile. Mais je dirais... C'est pas forcément une musique des grands espaces, c'est plus une musique de cocooning, quoi. C'est plus peut-être sous la couette, ça serait le meilleur endroit.
C'est
marrant, hein.
C'était pas possible.
Je veux faire un petit passe photo rock en scène. Est-ce que vous avez souvenir d'un beau concert vu cette année qui a vraiment été un choc ou en tout cas qui a fait battre le cœur?
Ouais. Un trio de... C'est trois cinglés, deux sax et une batteur. Il s'appelle Moon Ouch. Attendez que je vous dise... C'est hallucinant. Vous checkerez, puis vous verrez. C'est dingue. Je trouve que c'est génial. C'est des gars qui sont... Ils maîtrisent le... c'est les nouvelles générations de gars qui ont une... ouais, ça s'écrit comment? C'est ça, comme ça. M-O-O-N-H-O-O-C-H. Alors, pour le coup, eux, ils sont complets. Ils maîtrisent tout, l'électro, le... Et le... Non, d'abord, ils maîtrisent le jazz. Et comme c'est des mômes, ils sont nés aussi avec l'électro. Ils arrivent à vous faire des plans électro, mais juste avec leurs instruments en acoustique. En faisant des espèces d'accidents où on a l'impression que c'est un loop. Ou alors en jouant des riffs de tech, en jouant des séquences hyper répétitives comme ça, et en allant vers la trance. C'était génial. C'est vrai que chouette. Et puis Dorantes, ce pianiste flamenco, c'est Jean-Sébastien Bach qui rencontre les gitans. Et ça, c'est génial.
Ok, et ben merci.